Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
La fin du premier livre de Samuel et le tout début du second livre de Samuel, chers frères et sœurs de Radio Présence, qui raconte la mort de Saül et de Jonathan, sur laquelle nous nous sommes un peu étendus, constitue le centre émotionnel de l'histoire de David. Vous l'avez bien compris. Le moment clé où se révèle la grandeur d'âme et la délicatesse de sentiment du héros. Cependant, le véritable sommet de la geste davidique est encore à venir. Il se situe dans l'avènement royal du fils de Jessé sur tous les Israélites, au terme des péripéties sanglantes de la succession de Saül, le premier roi, et plus encore dans la consécration par Dieu de sa royauté, exprimée par la prophétie de Nathan sur la pérennité de sa dynastie. Et depuis son apparition lors du combat singulier contre Goliath, l'étoile de David ne cesse de monter dans le ciel des hommes et dans celui de Dieu. Il apparaît d'emblée comme un homme de foi et comme un homme de cœur, tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard de Saül et de Jonathan, comme nous l'avons dit. Cette étoile est celle que Balaam, fils de Béor, prophète malgré lui et homme au regard pénétrant, du livre des Nombres, chapitre 24, a vu poindre des steppes de Moab au-delà du Jourdain, vers Jéricho, au moment où le roi Balak voulait le voir maudire ses Hébreux montés d'Égypte en route vers leur terre promise. Menacé d'être occulté par le premier roi d'Israël, à qui le héros fait une ombre évidente, l'astre royal a connu les éclipses du séjour forcé au désert de Juda, mais son ascension est irrésistible, comme le chante le quatrième oracle de Balaam, toujours au chapitre 24 du livre des Nombres. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Voilà cet oracle du livre des Nombres. Et dans l'Ancien Orient, l'étoile est un signe divin. Elle marque l'avènement d'un roi divinisé. Et malgré les troubles des passions humaines, Dieu poursuit son dessein de donner à David la royauté, de stabiliser sa dynastie pour qu'advienne un jour le Christ, roi Messie, fils de David. Le roi Saül est mort sur les monts de Gelboé. La faveur populaire porte la couronne à David. Au moins confusément, ce dernier sait, depuis son onction royale, chapitre 16e du premier livre de Samuel, quelle est sa destinée, devinée par Saül lui-même avec la clairvoyance de la jalousie. Même si David n'a pas brigué la royauté, même si des événements l'ont porté peu à peu vers la couronne, il semble bien que le héros soit allé dans le sens de ce qu'il attendait, peut-on dire de ce qu'il attendait. David était doué, lui-même ne pouvait l'ignorer. Les dons de Dieu étaient actifs en lui. Sans se pousser, il sentait que Dieu lui réservait un rôle privilégié. Par une sorte d'intuition profonde ou de pressentiment obscur, il est possible de savoir, je mets des guillemets, à l'avance qu'une certaine mission vous attend. Est-ce alors de l'ambition ? Peut-être, à condition de se souvenir que l'ambition n'est pas d'abord ni toujours un défaut. Ambire en latin, c'est aller alentour, aller autour, entourer, solliciter. L'ambition est l'ensemble des démarches que l'on peut faire pour obtenir une place honorable. Par exemple, il n'est pas immoral d'entreprendre une campagne électorale à condition que la fonction pour laquelle on se présente soit envisagée sous l'angle du service. Il faut en doute que les moyens utilisés pour ces tournées, c'est le sens premier d'ambition d'ailleurs, aller alentour, que ces tournées électorales soient honnêtes, les moyens utilisés soient honnêtes. Sans faire de manœuvre, il est légitime de faire en sorte que se développent en nous les dons de Dieu. Une certaine ambition, qui est un puissant stimulant pour entreprendre de grandes œuvres, est donc saine. Elle constitue un levier de choix dans l'éducation. David n'en manquait pas. Lui qui sut mettre à profit les circonstances qui devaient l'amener à régner sur Israël. Mais il savait surtout que Dieu était avec lui et il se laissait guider par lui. La riche humanité de David est indissociable de son attachement à Dieu. Ambition, oui, mais dans la soumission de la foi. Et on le voit dans son comportement concret. En effet, après la mort de Saül et de Jonathan, après son éloge poignant des disparus, le premier souci de David est de consulter Dieu pour savoir ce qu'il convient de faire. Il a trouvé la Siclague, tout à fait au sud du territoire de Juda. À peine remis de l'émotion causée par la razzia opérée au Néguev par les Amalécites, et ayant pu retrouver tout ce que les bandits avaient emporté à lui-même et à ses hommes, et en particulier ses deux femmes, à Ahinoam et à Abigaïl. En sa grande détresse, comme dit le texte, il retrouva courage en son Dieu. Il dit au prophète Ébiatar, au prêtre Ébiatar, le fils du prêtre Ahimélec, rescapé du massacre des prêtres de Nob, « Je t'en prie, apporte-moi l'éphod. » L'éphod, c'est le petit sac avec les dés qui permettent de consulter le Seigneur et de savoir sa volonté. Et Ébiatar apporta l'éphod à David. Alors David consulta le Seigneur et lui demanda « Poursuivrai-je ce Redzou et l'atteindrai-je ?» La réponse fut « Poursuis, car sûrement tu l'atteindras et tu libéreras les captifs. » On sait que l'éphod était un instrument divinatoire qui contenait les sorts sacrés Ourim et Thummim par lesquels on interrogeait le Seigneur. Il s'agissait de bâtonnets ou de dés renfermés et agités dans une boîte dont le maniement était réservé aux prêtres. Cette consultation de Dieu par oui et par non, plusieurs fois pratiquée par David, a disparu après lui. Elle n'était apparue qu'à l'époque des juges.